l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 27 novembre 2013, des comme dinosaures, récentes avancées dans le débat sur l'origine dinosaurienne des oiseaux. La paléontologie est avant tout une science de terrain, et les grandes avancées dans la compréhension de l'histoire du vivant restent conditionnées à la découverte de nouveaux fossiles. Ainsi, le regard porté sur les dinosaures a considérablement changé ces 20 dernières années. Du statut de gros reptiles voués à disparaître, juste bons à frapper l'imagination populaire, ils ont acquis celui de véritables succès évolutifs. On sait qu'il constitue aujourd'hui l'un des groupes de vertébrés les plus diversifiés, celui des oiseaux. Le débat sur l'origine des oiseaux occupe les paléontologues depuis près de 2 siècles. La multiplication des découvertes de nouveaux fossiles, en particulier celles des dinosaures à plumes chinois, sont venues conforter et valider l'hypothèse d'une origine dinosaurienne des oiseaux. L'acquisition des caractères aviens est le fruit d'une évolution en mosaïque. Ronan Alain est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, où il est aussi chargé des collections de reptiles et d'oiseaux fossiles. Il vient de publier une histoire des dinosaures chez Perrin. Il est l'invité de ce 4e numéro de la 5e saison de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce cycle de conférences. Je voudrais donc vous dire que dans le programme éclectique dont a parlé Régis tout à l'heure, qui est assez limpide à lire, hein, de A à Z, les dinosaures prennent la suite du Big Bang et du chaos. Après ces sujets quelque peu explosifs, est-ce que les dinosaures vont nous ramener à quelque chose de plus calme et de plus apaisé? Bon, il est permis d'en douter si... on a en tête, et beaucoup d'entre vous l'ont peut-être en tête, des prédateurs monstrueux, une extinction catastrophique, présentée comme catastrophique pour les plus grands d'entre eux. Mais je pense, et c'est la démarche que nous allons suivre ici probablement, il est grand temps de changer de point de vue à leur égard, aussi bien sur la généralité de leur gigantisme que sur celle de leur extinction. Donc Ronan Alain se propose de vous engager dans ce changement de perspective, bien qu'il ait commencé sa carrière scientifique sur de gros dinosaures carnivores, les mégalosaures. Donc, pour continuer cette présentation de Ronan, je ne vais pas faire ce qu'a fait Michel Miaille la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais vous proposer un court CV de Ronan. Comme il n'a pas atteint la quarantaine, il n'est pas encore temps d'établir les grandes lignes de sa notice nécrologique, ce qui avait été le cas la semaine dernière. Donc Ronan est maître de conférence actuellement en paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. À ce titre, il occupe des fonctions de chercheur dans un laboratoire associé au CNRS, mais également d'enseignants et de conservateurs des collections de fossiles amphibiens, reptiles et oiseaux. Donc Ronan est un Parisien, s'il a été formé, oui, presque, à la paléontologie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris 6, j'ai eu aussi le plaisir de le côtoyer et c'était lors d'un stage de magistère effectué dans notre laboratoire, mais également au cours de son DEA qui était alors cohabilité entre Paris 6 et Montpellier 2. Il s'était d'abord initié à l'étude de dents de requin, ce fut une incursion très fugace dans le monde des monstres marins, prédateurs marins, car comme beaucoup d'étudiants, il avait en ligne de mire l'étude des dinosaures déjà. Et il sera l'un des rares étudiants que la passion et les compétences ont conduit à une carrière de professionnel en matière de dinosaures. Donc, Ronan a réalisé une thèse au Muséum d'Histoire Naturelle sous la direction de Philippe Taquet, qu'il a soutenu en 2002. Ensuite, et je voudrais bon, quand même ne pas le passer sous silence. Le parcours de nombreux jeunes docteurs paléontologues est ensuite une course d'obstacles, jalonnée par la recherche de financement pour nourrir leurs recherches et pour se nourrir aussi, accessoirement. Et donc, Ronan n'a pas fait exception. Avec des financements nationaux, européens ou internationaux, entrant dans des programmes publics ou dans ceux de fondations ou d'associations. Cela l'a soutenu pendant tout son parcours pré-professionnel et il a été recruté au Muséum d'Histoire Naturelle 5 ans après sa thèse en 2007. Et pendant cette période, il a notamment occupé un poste de postdoctorant à l'université Kadiahed de Marrakech, non loin de l'un de ses terrains de fouilles préférés, c'est-à-dire la région de Toundout, dans le sud du Haut-Atlas marocain. Et c'est une région que je connais très bien pour l'avoir beaucoup parcourue pour chercher des rongeurs fossiles. Bien sûr, beaucoup, beaucoup moins anciens que les dinosaures en question. Et c'est une zone dont la géologie est très compliquée. D'ailleurs, il en parle pas mal dans son petit bouquin sur l'histoire des dinosaures que je vous conseille, qui est devant la porte, là-bas, sur la table. Et Ronan est donc un paléontologue qui a fait beaucoup de terrain, qui a été très tôt compris que la nouveauté en paléontologie émergeait d'abord sur le terrain avec la découverte de nouveaux fossiles, lesquels, nouveaux fossiles, sont à la source des développements théoriques, des innovations et de l'utilisation, donc de l'application des innovations technologiques en paléontologie. Ainsi, si j'ai bien compté, il est impliqué dans une dizaine de chantiers sur le territoire français, donc pour un des plus importants dont il vous parlera probablement en Charente, mais aussi en Provence ou en Lorraine, en Afrique, donc au Maroc, mais également au Niger, qui fut le terrain de thèse, le terrain de jeu aussi de son directeur de thèse, et puis au Lesotho, et enfin en Asie du Sud, au Laos. Je pense qu'il trouvera un moment pour vous parler au cours de cette conférence de ces chantiers. Donc c'est aussi un chercheur confirmé parce qu'à côté de son implication forte sur le terrain, il a publié de nombreux articles de revues scientifiques et il accompagne les premiers pas dans la recherche paléontologique d'étudiants, de masters ou de doctorants. Comme enseignant au muséum, Ronan est également très impliqué dans la diffusion de la paléontologie auprès d'un large public. Tout à l'heure, il me disait qu'il avait eu 90 interviews là, en 4 mois pour une exposition à Paris sur les grands dinosaures sauropodes. Nombreux sont ses articles de vulgarisation, articles de presse, de magazines, conférences et autres interventions télévisées de Bonjour l'ancêtre à C'est pas sorcier. Donc de plus, vous verrez qu'il a publié 2 bouquins et participé à 2 autres. Afin d'en venir quand même au sujet de cette conférence sur l'origine dinosaurienne des oiseaux, je voudrais revenir un petit peu en arrière à l'Agora de 2011-2012, dont le thème était les certitudes et incertitudes en science. Et j'avais choisi, puisque j'intervenais, que j'étais à sa place à ce moment-là, j'avais choisi de décliner ce grand thème à propos de la paléontologie. Ainsi, j'avais été amenée à aborder la question de l'origine des oiseaux en traitant des manipulations et des falsifications des fossiles par les créationnistes. Et si je me souviens bien, j'avais déclaré que depuis la fin du XXe siècle, la question était tranchée, les oiseaux actuels sont des dinosaures théropodes. Vu l'ampleur du thème traité alors, je n'étais pas allée très loin et je n'avais pas développé tous les arguments à l'appui de cette thèse, mais j'avais dû me limiter aux commentaires de quelques images particulièrement parlantes. Donc maintenant, le moment est venu d'en savoir plus et c'est ce que va faire Ronan dans cette conférence. Donc à toi de jouer. Voilà.
Merci Monique. Bon, bonsoir mesdames et messieurs, merci à Monique pour cette introduction. Je suis particulièrement content d'être ici ce soir puisque Montpellier est une des trop rares villes universitaires à former des paléontologues. Et j'en ai repéré quelques-uns dans la salle ce soir. J'essaierai, si je ne suis pas trop bavard sur la première partie de mon intervention, de leur rendre aussi un petit peu hommage tout à l'heure en vous parlant donc de ce gisement d'Anjac sur lequel on travaille en Charente depuis maintenant 3 ou 4 ans. Avant cela, donc, on va faire un petit point sur les dinosaures. Alors, je ne peux pas évidemment aborder toutes les questions qu'on peut se poser sur les dinosaures. La principale, effectivement, c'est un petit peu qu'est-ce qu'un dinosaure, où en est-on de la recherche sur les dinosaures, et de savoir un petit peu dans quel cadre on va se placer. Alors, comme la plupart des gens, il semblerait que vous êtes un public très fidèle, donc j'ose à croire que vous ne faites pas partie de la plupart des gens, mais il se trouve que la plupart des gens croient savoir des choses sur les dinosaures, et parmi les choses qu'ils croient savoir, vous avez ici 8 propositions. 8 propositions qu'on continue à voir fleurir allègrement dans des publications, dans des ouvrages de vulgarisation, qui sont souvent écrits par des gens non professionnels, donc des choses qui nous disent que les mots dinosaures signifient terrible lézard, que tous les gros reptiles préhistoriques sont des dinosaures et réciproquement, que les dinosaures ont vécu et sont morts quasiment tous en même temps, grosso modo que pendant 220 millions d'années, on a eu les mêmes espèces de dinosaures, qu'une météorite a tué les dinosaures, que les dinosaures sont un échec évolutif, la preuve, vous n'en avez plus dans la nature actuelle, que les mammifères, évidemment, sont apparus après les dinosaures, que les dinosaures ont tous le sang chaud, alors des fois vous allez voir écrit qu'ils ont tous le sang froid, et enfin qu'aujourd'hui, il est très très difficile de trouver des dinosaures, puisqu'on en a tellement cherché pendant 2 siècles qu'on les connaît tous, vous connaissez tous les dinosaures, le Tyrannosaurus, le Diplodocus, enfin tous ces dinosaures, on les connaît depuis longtemps, il n'y a plus grand chose à découvrir. Alors cette vision des dinosaures, elle a été véhiculée pendant très longtemps, on peut lui donner corps en prenant ces vieilles illustrations. Donc ça, c'est quelqu'un que tous les paléontologues connaissent, donc Zdeněk Burian, qui a fait des reconstitutions. Alors il ne s'est pas cantonné aux dinosaures, hein. il a fait aussi des mammifères, il a aussi dessiné des hommes préhistoriques, et en fait il a façonné un petit peu une vision qu'on pourrait maintenant considéré de rétrograde, mais c'était la vision de l'époque des scientifiques, hein, il faut mettre ça à l'aune des connaissances de l'époque, mais cette vision des dinosaures, donc il l'a forgée dans les années 30, jusque dans les années 60, et pendant cette période-là, l'activité scientifique autour des dinosaures n'était pas très importante. Et il se trouve que cette vision-là a perduré, et elle a perduré jusque dans les années 90. Donc jusque dans les années 90, et j'ai envie de vous dire que dans cette salle, il y a sûrement je pense une scission assez nette entre les anciennes générations qui ont sans doute un petit peu toujours cette vision-là des dinosaures et les générations plus jeunes qui ont entendu parler des dinosaures à l'école, puisque maintenant ce que je vais vous raconter ce soir, c'est enseigné, c'est au programme de 3e, alors peut-être pas avec tout ce que je vais vous dire ce soir, mais au moins l'origine dinosaurienne des oiseaux est quelque chose maintenant dont on parle aux collégiens dès la 3e. Donc cette vision du dinosaure, le dinosaure lourdeau, hein, ce cou, regardez ce magnifique cou qui fait même pas un S, il fait un Z. Là. Vous allez avoir une queue qui bien évidemment va traîner par terre. Et si vous regardez le spécimen qui est au fond, c'est un diplodocus, hein, le diplodocus du fond, regardez la posture des membres antérieurs, vous verrez une bonne posture typique des reptiles avec un animal qui va se déplacer de façon très très pataude. Donc ça, c'est l'ancienne version. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait plutôt voir, malheureusement, c'est loin d'être le cas, parce que ces images, qui sont très jolies hein, au demeurant, mais ces images sont libres de droit, et les éditeurs adorent réutiliser ces images, et n'ont pas envie d'utiliser celles-ci, qui sont faites par des jeunes artistes, des jeunes illustrateurs. Il faut savoir qu'il y a énormément, vous pouvez vous promener sur des forums, il y a énormément d'illustrateurs en paléontologie, dont certains ont fait des études en anatomie comparée, en biologie, donc des gens très compétents. Et ces gens-là essayent de donner la vraie image, ou du moins, c'est pas sûrement pas la vraie image, mais l'image actuelle que les scientifiques ont des dinosaures. Donc vous avez ici un exemple avec l'illustrateur Raoul Martin, qui est sans doute un des meilleurs paléo-illustrateurs aujourd'hui. Alors cette vision des dinosaures nous renvoie même à, d'abord, pourquoi parler de dinosaures ? Qu'est-ce qu'on entend par dinosaures ? Je vous le disais tout à l'heure, dinosaure, c'est toujours défini comme terrible lézard, c'est l'étymologie littérale du mot. C'est l'étymologie littérale, mais ce n'est pas l'étymologie réelle. Quand Owen a forgé ce terme en 1842, il entendait par dinosaure, c'était en fait lézard terriblement grand. Donc ce qui a frappé les naturalistes du 19e siècle, c'est la taille de ces animaux. Alors aujourd'hui, moi je vais vous montrer l'inverse, je vais vous montrer qu'il y a des dinosaures de toute petite taille, mais Tout ça pour revenir à cette idée qu'un dinosaure, ça n'existe pas. Un dinosaure, c'est un terme forgé par l'homme, comme on dit un mammifère. Si je vous dis le mot mammifère, à quoi vous pensez ? Vous pensez à un ornithorynque, vous pensez à une gerbille, vous pensez à un être humain, vous pensez à une baleine ou vous pensez à un éléphant. Essayez de décrire un mammifère, c'est impossible. En termes simples, c'est très compliqué. Essayer de décrire un dinosaure, c'est tout aussi difficile. Si vous voulez parler de dinosaures, vous êtes obligé de rentrer dans la diversité de ces animaux, de vous intéresser à cette diversité, et donc de voir qu'est-ce que contient le terme dinosaure et tout l'éventail des animaux qu'on trouve là-dedans. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert des dinosaures. Sachez qu'il existe à l'heure actuelle environ 870 espèces de dinosaures qu'on continue à en trouver. On en reparlera tout à l'heure, mais si on n'a pas le temps, sachez que par exemple en 2010, on a trouvé une quarantaine de nouveaux dinosaures la même année, donc 40 dinosaures décrits, et que donc le groupe a encore nettement gagné en diversité, diversité morphologique, mais aussi diversité adaptative, puisqu'on se rend compte qu'il y a des dinosaures qui sont adaptés à peu près tous les modes de vie. Alors, je veux juste vous présenter les plus grands groupes qui apparaissent ici dans des couleurs différentes. Alors, vous allez voir la grande dichotomie qu'on connaît au sein des dinosaures. Donc, les dinosaures sont apparus à peu près 225-232 millions d'années. Les plus vieux restes ont été retrouvés dans la formation Ichigualasto, ce qu'on appelle le canyon de la Lune. Hein. Donc, on se trouve en Argentine, en Amérique du Sud. Et donc, ces premiers dinosaures nous renseignent déjà sur une certaine diversité du groupe. Et très rapidement, donc, on va voir deux groupes qui se détachent. D'un côté, ce qu'on appelle les dinosaures avec un bassin de type oiseau, ce qu'on appelle les ornithischiens. Et de l'autre côté, les saurischiens, les dinosaures avec un bassin de type lézard. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails anatomiques. Il faut juste savoir, je reparlerai tout à l'heure du bassin des dinosaures, il faut juste savoir qu'un os particulier, le pubis, ne va pas avoir la même direction, la même morphologie chez ces deux grands groupes de dinosaures. Donc à partir du moment où vous avez un bassin, il est très facile de savoir à quel grand groupe vous avez affaire. Au sein des ornithischiens, donc rapide tour d'horizon. À gauche, vous avez le groupe qu'on appelle le grand groupe des thyréophores, ce qui veut dire littéralement les porteurs de plaques. Le groupe des thyréophores, vous le connaissez bien, avec le stégosaure. Alors, les thyréophores sont un groupe très peu connu et surtout très très peu diversifié, puisque les stégosaures et les ankylosaures sont connus simplement à partir de la fin, on va dire, du Jurassique jusqu'au Crétacé, mais c'est sans doute le groupe le moins diversifié de dinosaures qu'on connaisse à l'heure actuelle. Donc un groupe relativement rare, mais un groupe très célèbre, parce que quand on a une telle anatomie, quand on a ces telles plaques au-dessus du corps, évidemment, ça pose énormément de questions. Deuxième groupe de dinosaures, on va dire majeur, le groupe des cératopsiens, c'est-à-dire les dinosaures porteurs de cornes. Vous les avez ici en bleu et avec son représentant le plus célèbre. Donc vous avez ici une photo du crâne de Triceratops qui est dans la galerie. Derrière, vous avez son principal prédateur, le tyrannosaure. Donc ces animaux parfaitement connus, effectivement, eux sont connus depuis les années 1880, découverts dans quasiment toute l'Amérique du Nord. Donc des animaux ultra célèbres, des animaux très étudiés et des animaux qui renvoient invariablement à cette vision qu'on a des dinosaures. J'ai choisi des dinosaures assez typiques. Autre groupe, le groupe de ce qu'on appelle les ornithopodes, vous le voyez ici donc en vert. Ce groupe des ornithopodes, vous le connaissez sûrement, l'un d'entre eux qu'on appelle l'iguanodon, très célèbre en Europe, puisqu'il a été trouvé dans les mines de charbon de Bernissart en 1869. Et il s'agit en fait des premiers squelettes complets de dinosaures qu'on a trouvés. Donc le premier animal complet reconstruit, ce sont ces iguanodons. Alors il n'y a pas que des iguanodons, il y a aussi un grand groupe qui est très proche des iguanodons, qu'on appelle les dinosaures à bec de canard. Et vous en avez deux exemplaires chinois ici, à gauche, un animal qui s'appelle Tsingtaosaurus, avec cette espèce de grande protubérance osseuse au-dessus du front. Et à droite, un de ses collègues qui s'appelle Gilmoreosaurus, et tous deux viennent du Crétacé supérieur de Chine. Donc vous regarderez que ces animaux sont particuliers, ils ont une anatomie crânienne vraiment bizarre, avec cette espèce de bec, de crâne qui est allongé et qui se termine par un bec édenté, par une espèce de il y a des os supplémentaires, le prédentaire et le prémaxillaire, qui sont complètement édentés. En l'arrière de la bouche, en revanche, ils sont là aussi très particuliers. Ce sont des animaux qui ont de véritables batteries dentaires, c'est-à-dire que les dents sont imbriquées les unes dans les autres. Elles forment des espèces de grandes râpes et ce sont sans doute les seuls animaux, les seuls dinosaures herbivores qui étaient capables de mâcher leur nourriture. La plupart des autres dinosaures avalaient tout cru la nourriture, qu'ils soient carnivores ou herbivores. Les hadrosaures étaient parmi les rares à broyer la nourriture, à avoir donc de la mastication possible au niveau de la bouche. Et ces animaux-là ont évolué bizarrement, conjointement aux plantes à fleurs, c'est-à-dire que les premiers hadrosaures commencent à se diversifier au même moment que les plantes à fleurs apparaissent dans la nature. Donc on essaye toujours de mettre cette relation en évidence. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Bon, personne n'a encore réussi à démontrer qu'il y avait une coévolution des hadrosaures avec les plantes à fleurs, mais en attendant, l'hypothèse reste toujours posée et sans doute très probable. Donc on a fait un petit tour des ornithischiens. Après, je vais vous présenter très rapidement les deux grands groupes de saurischiens. Donc d'un côté, les géants du Mésozoïque, ces grands sauropodes, avec ici ce qui est censé être le plus grand dinosaure du monde, donc Argentinosaurus. Vous avez une charmante demoiselle qui est en train de faire l'échelle. Alors ce que vous avez devant vous, c'est pas un squelette reconstitué, c'est un squelette reconstitué. En fait, c'est plus une sculpture qu'un squelette. Il faut savoir que cet Argentinosaurus, on en connaît en fait simplement que deux vertèbres et trois fémurs incomplets. Il reste à ce jour le plus grand dinosaure connu. On espère peut-être le détrôner incessamment sous peu. Ça n'a pas grande importance, ça vous donne juste une idée, là encore, de taille, de forme que peuvent avoir ces dinosaures. Et le dernier grand groupe, le groupe qui va particulièrement m'intéresser ce soir, c'est celui donc des théropodes. Les théropodes, on a souvent mis en synonymie théropodes et dinosaures carnivores. Il se trouve que depuis maintenant une petite dizaine d'années, on sait que ce n'est plus vrai, que certains théropodes sont revenus à un régime alimentaire herbivore, donc que certains étaient herbivores. Celui que vous avez devant vous, Majungasaurus, qui vient du Crétacé supérieur de Madagascar, lui est bien un carnivore, ça ne fait pas de doute. Il fait partie d'une famille de dinosaures, d'ailleurs assez étonnante, les Abelisauridae, qu'on ne connaissait pas encore il y a 30 ans. Donc c'est un groupe, on va dire, très récent pour les paléontologues, comme quoi tout n'a pas encore été vraiment trouvé au 19e siècle. Et puis actuellement, on sait qu'ils existent en Europe, on sait qu'il y en a en France. Il y a un beau spécimen d'Abelisauridae là qui est en cours de description, qui devrait bientôt être publié. Alors au sein de ces théropodes, les plus attentifs d'entre vous verront qu'en haut à droite, au sein des théropodes, j'ai mis oiseaux modernes. Donc vous voyez que dans cette phylogénie, donc qui retrace les liens de parenté existants entre tous les groupes de dinosaures, puisque nous sommes en paléontologie, nous ne pouvons pas établir de généalogie, nous n'avons pas d'ancêtres et de descendants, nous avons simplement des groupes qui partagent des caractères qui leur sont propres, et ces caractères communs nous permettent de reconstruire ce type de représentation évolutive, donc ces phylogénies. Donc dans cette phylogénie, vous voyez que les oiseaux sont pleinement inclus au sein des dinosaures carnivores, et que donc, comme il se doit, sont considérés comme des dinosaures carnivores. Je vais revenir sur ce petit problème de sémantique dans 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut parler de dinosaures dans toute leur diversité, ce que je vous conseillais de faire au début de cette présentation, eh bien, il va aussi falloir inclure tous ces animaux-là. Donc tous ces animaux-là que vous connaissez sont eux aussi, au même titre que tous les animaux que je vous ai présentés avant, bien que certains d'entre eux soient vraiment de plus petite taille, vous avez le colibri abeille en plein centre de cette image, ces animaux-là sont à part entière des dinosaures. Pourquoi à part entière? Donc ce petit problème de sémantique. Vous êtes d'accord pour reconnaître que l'homme est un primate, j'espère. Vous êtes aussi d'accord pour reconnaître que les primates, si on leur adjoint tous les autres mammifères qui sont dérivé des Omaya, qui est un petit mammifère de Chine, du Crétacé supérieur, va fermer le groupe des placentaires. Et que si on rajoute le kangourou et l'ornithorynque à tout ça, on va réussir petit à petit à définir le groupe des mammifères. Donc les mammifères, ça a priori tout le monde est d'accord. Vous êtes, j'espère, tous OK pour reconnaître que l'homme est un primate, placentaire, mammifère. Mais pour les oiseaux, c'est pareil. Alors c'est marrant qu'on soit obligé, au début du XXe siècle, pour expliquer que les oiseaux sont des dinosaures, obligé d'expliquer avant que les hommes soient des primates. Mais ça a été aussi un espèce de frein, je vais dire, sémantique. Il y a toujours des collègues, d'ailleurs, hein, des paléontologues, qui me disent « Oui, alors effectivement, les oiseaux sont proches des dinosaures, mais c'est pas vraiment des dinosaures. » Mais si, c'est des dinosaures. La preuve en est que, si on considère le colibri et l'archéoptérix, je vais vous reparler de l'archéoptérix dans deux minutes, ces deux animaux vont former le groupe des oiseaux. Vous rajoutez le tyrannosaure, vous allez avoir le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, les théropodes. Et si vous rajoutez en plus le diplodocus et le triceratops, on va réussir à définir les dinosaures. Donc, les oiseaux, le colibri est un oiseau, les oiseaux sont des théropodes, et les théropodes sont bien des dinosaures. Ça, c'est juste de la sémantique, ce que je viens de vous faire. Je ne vous ai rien prouvé du tout, là. Maintenant, justement, la question, c'est comment prouver ? Qu'est-ce qui nous permet de construire cette représentation, une fois qu'on a évacué ce problème de sémantique ? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le colibri se trouve là-haut, à côté d'un animal qu'on a appelé l'archéoptérix, et au sein d'un groupe plus large et plus vaste qu'on a appelé les théropodes ? Alors, cette question de l'origine dinosaurienne des oiseaux, comme le disait tout à l'heure Monique en introduction, effectivement, la paléontologie est une science qui évolue beaucoup, puisqu'on raconte une année n'est pas toujours vraie 20 ans ou 30 ans plus tard. On fonctionne énormément par découverte. Et le questionnement de l'origine dinosaurienne des oiseaux est un problème paléontologique qui remonte aux origines de la paléontologie. Le premier à avoir émis une hypothèse, une idée, c'est Lamarck. Nous sommes en 1809, et Lamarck, dans sa philosophie zoologique, va décréter qu'il y a de grandes chances que les oiseaux descendent des tortues. Donc vous avez cette phrase assez extraordinaire où on apprend que si on coupe la tête d'une tortue et qu'on la met sur un squelette d'oiseau, personne ne sera capable de voir la supercherie et de voir qu'il ne s'agit pas d'un oiseau. Donc bon, c'est du Lamarck, c'est 1809, il faut remettre ça aussi à l'aune des connaissances de l'époque. Il va sans dire que cette hypothèse n'a pas vraiment attiré la plupart des scientifiques. Elle n'a jamais été reprise, hein, mais elle a le mérite d'être la première hypothèse, le premier questionnement d'un scientifique autour de l'origine dinosaurienne des oiseaux. Pourquoi ce questionnement ? Le questionnement, c'est facile de l'avoir. Après, pour y répondre, il faut avoir des éléments. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour avoir des éléments, il faut avoir des fossiles. Si vous n'avez pas de fossiles, vous ne pouvez pas répondre. Pour répondre, il a fallu attendre des découvertes, et la découverte sans doute d'un fossile, sans doute le fossile le plus célèbre du monde. Et c'est aussi une chance incroyable, parce qu'on a trouvé en 1859 la réponse, enfin quelque part on n'a pas trouvé la réponse, mais on a trouvé la clé, j'ai envie de dire, du questionnement de Lamarck de l'origine des oiseaux, et on avait quasiment tout déjà sur ce squelette. Donc il s'agit d'Archéoptérix, un animal découvert dans les carrières de Solenhofen en Bavière, hein, donc les carrières de calcaire lithographique. Ces carrières ont le bon goût de préserver des restes, les restes osseux, mais aussi de préserver les empreintes de plumes de cet animal. Donc quand on trouve cet animal en 1859, on trouve un animal qui a des plumes. Un animal qui a des plumes, en 1800, à cette époque-là, c'est forcément un oiseau. Donc on a trouvé le plus vieil oiseau. Et il se trouve qu'en 2013, Archéoptérix a toujours ce statut de plus vieil oiseau. Donc on a trouvé tout un tas d'autres fossiles qui sont venus étayer ce questionnement de l'origine dinosaurienne des oiseaux, mais on avait déjà tout en main, j'ai envie de dire, dès le milieu du 19e siècle. Alors, à côté d'Archéoptérix, on a trouvé un autre petit animal que vous avez ici à gauche, qui s'appelle Compsognathus. Compsognathus, ça se traduit par mâchoire élégante. J'aime beaucoup cette étymologie de dinosaure. Et quand on met Compsognathus et Archaeopteryx l'un à côté de l'autre, qu'on n'a pas beaucoup de fossiles de dinosaures, rappelez-vous qu'on est en 1860, qu'on n'a pas encore trouvé les iguanodons, donc on n'a aucun dinosaure complet, eh ben on se rend compte que ces deux animaux ont de très 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 nombreux points en commun. De très nombreux points en commun, et à partir de là, on va commencer à réfléchir justement sur cette origine dinosaurienne des oiseaux, parce qu'on a plusieurs squelettes, parce qu'on commence à avoir du matériel. Et très rapidement, il y a une certitude qui se dégage, un point qui n'a jamais été débattu depuis, c'est que les oiseaux ont des caractéristiques qu'on retrouve chez un groupe qu'on connaît aussi déjà bien à l'époque. Non, bon, j'ai rien, c'est pas grave. Si vous regardez le crâne des trois animaux qui sont là, le Vélociraptor en haut, donc un dinosaure carnivore, l'Archéoptéryx au milieu, et puis notre poulet, vous allez retrouver des choses qui leur sont communes. Et en particulier dans la fenestration du crâne. Si vous regardez ces crânes, vous allez voir des fosses que vous retrouverez partout. Vous allez voir cette petite fosse-là, qu'on appelle dans notre jargon la fosse mandibulaire externe. Vous allez avoir en avant de l'œil une autre fosse ici, qu'on appelle la fosse anteorbitaire. Et ces deux fosses-là, on les retrouve non seulement chez les oiseaux, mais on les connaît aussi chez les crocodiles, on les connaît chez les ptérosaures, on les connaît chez les dinosaures, et en fait on les connaît chez ce grand groupe qu'on appelle plus largement les archosaures que vous pouvez voir à droite. Donc dès 1860, on sait que les oiseaux sont issus d'un groupe d'archosaures. Le problème, c'est que des archosaures, il y en a énormément. Je vous en ai énuméré certains, et on va vite avoir plusieurs hypothèses qui vont émerger, plusieurs hypothèses qui vont être testées pendant près de 150 ans. Alors, on va avoir deux grandes écoles. Alors, étonnamment, on a un peu oublié, le premier à formuler l'hypothèse d'une origine dinosaurienne des oiseaux, c'est un embryologiste, c'est pas un paléontologue, c'est Carl Gegenbaur, qui va, le premier, en étudiant justement des embryons de poulets et en comparant ça avec ce qu'on peut voir chez les reptiles, trouver des caractéristiques communes entre les groupes et suggérer que les oiseaux descendent probablement de certains dinosaures proches de Compsognathus. À côté de lui, on va avoir Thomas Huxley qui va lui s'intéresser aux membres postérieurs. Il va s'intéresser aux membres postérieurs et à un os en particulier qu'on appelle l'astragale, donc os de la cheville. Et cet astragale, chez les dinosaures, il a une caractéristique, il a un très grand processus ascendant. Et ce processus ascendant, on le retrouve chez les oiseaux. Donc, pour Huxley, ce caractère et d'autres viennent corroborer une origine dinosaurienne des oiseaux et la filiation existant entre oiseaux et dinosaures. En face de Huxley et de Gegenbaur, on va avoir deux grandes figures de la paléontologie du XIXe siècle, tous les deux de l'Angleterre, des purs produits de l'Angleterre victorienne, si vous voulez. On va voir Sir Richard Owen, l'homme qui a créé le mot dinosaure, et Harry Govier-Sillé, un monsieur qui a juste, entre guillemets, décrit les deux grands groupes de dinosaures, les saurischiens d'un côté et les ornithischiens. Et pour Owen et Sillé, les caractéristiques mises en évidence par Huxley et Gegenbaur sont juste des convergences, c'est-à-dire des caractères qui sont apparus indépendamment, et il n'y a aucune raison de penser que les dinosaures ont donné naissance aux oiseaux. Donc on a une espèce de statu quo. Pendant plus de 20 à 30 ans, on va rester dans statu quo et on va voir une étude remarquable qui va être faite dans les années 1920 par un Danois qui s'appelle Gerhard Heilmann. Gerhard Heilmann, il est illustrateur, il est passionné d'oiseaux. En tant que passionné d'oiseaux, il s'interroge sur leur origine et il décide de faire une synthèse de tous les travaux qui ont été conduits sur ce sujet. Il fait un énorme bouquin qu'il écrit en danois, qui va être ensuite traduit très rapidement en anglais. Et dans ce livre, il passe en revue tout ce qui a été dit. Il va illustrer tous les caractères qui ont été mis en avant et il arrive à une conclusion assez étonnante. Il dit, j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, et effectivement, il y a des points communs vraiment très 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 étranges entre les dinosaures d'un côté et les oiseaux de l'autre. Le problème, c'est qu'il manque quelque chose. il manque un os qu'on trouve chez les oiseaux, mais qu'on ne trouve pas du tout chez les dinosaures. Cet os, ce sont les clavicules. En 1922, quand Hillman écrit son bouquin, on n'a pas trouvé de clavicules chez les dinosaures. Tous les squelettes de dinosaures découverts n'ont jamais été retrouvés avec des clavicules. Hillman en conclut qu'il n'y a pas de clavicules chez les dinosaures. Et s'il n'y a pas de clavicules chez les dinosaures, comme on la connaît chez des reptiles antérieurs, il n'y a aucune raison de penser que la clavicule soit réapparue par la suite chez les oiseaux. Donc Hillman arrive à cette conclusion incroyable de dire « Tout rapproche les oiseaux des dinosaures, mais l'absence de clavicule me force à conclure qu'il faut chercher l'origine dinosaurienne des oiseaux ailleurs. » On va rester sur cette hypothèse pendant plus de 50 ans, 60 ans. On va trouver tout un tas de fossiles, en Afrique du Sud en particulier, mais aussi en Europe, des animaux, des archosaures primitifs, donc des reptiles dont on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas encore des dinosaures, ce n'est pas des ptérosaures, ce n'est pas des crocodiles. Et c'est sans doute à partir d'un de ces groupes que vont apparaître les oiseaux. Et il va falloir attendre les années 69-70 pour qu'un homme, un seul même, qui s'appelle John Ostrom, qui est décédé il y a simplement 7 ans, décide de reprendre le problème et donc de réétudier tous les fossiles. Et Ostrom va décrire un fossile très important. Vous l'avez en haut à droite, il s'agit de Deinonychus. Alors Deinonychus, c'est un dinosaure théropode, un dinosaure carnivore qui possède des clavicules. On va le voir dans un instant. Et c'est un animal qui a été découvert donc, dans le Crétacé inférieur des États-Unis et qui va présenter tout un tas de caractéristiques qui sont en fait intermédiaires entre oiseaux et dinosaures. Alors quelques-unes de ces caractéristiques. Vous avez ici cette fameuse clavicule. Ces clavicules, vous les connaissez chez les oiseaux, chez le poulet, quand vous mangez du poulet le dimanche. Les clavicules soudées, c'est cette espèce d'os des vœux hein, où chacun tire d'un coin et celui qui a le plus grand bout voit son vœu se réaliser. Donc ces clavicules soudées, on va les trouver chez les dinosaures à partir des années 40. Donc quand Ostrom reprend le problème, laissé par Hillman, il a à sa disposition tout un tas de clavicules. Donc le problème n'existe plus. Et Ostrom va lister tout un tas de caractéristiques anatomiques. Il y en a plus de 40 à l'heure actuelle qui sont propres aux oiseaux et aux dinosaures carnivores. Je ne vais pas vous citer petits détails anatomiques. Je pense que le processus ascendant astragal, ça suffit. Je vous ai parlé tout à l'heure on pourrait parler de crête deltopectorale, ça n'a pas grande importance ici. Je vais juste m'attacher à deux caractères qui sont assez importants. Vous avez d'abord, sur la deuxième rangée, vous pouvez voir des mains, des poignets de dinosaures. Et sur ces poignets, il y a un os qui a été peint en noir. Cet os, c'est ce qu'on appelle le semi-lunaire, parce qu'il a une forme de demi-lune. Chez les oiseaux et chez certains dinosaures carnivores, ce semi-lunaire assure l'ensemble de l'articulation de la main. Les autres os qui constituent le poignet, qu'on va trouver chez les animaux plus primitifs, donc vous le voyez chez les théropodes primitifs, en fait vous voyez que le poignet est formé de plusieurs os qui vont assurer cette articulation. Chez les oiseaux, le semi-lunaire permet entre autres à l'animal de replier son aile et quasiment de pouvoir porter son petit doigt, enfin le doigt 3, le seul qui reste, parallèlement à son avant-bras. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous n'avez pas de semi-lunaire, donc c'est normal. Par contre, cet os-là, on a longtemps pensé que c'était l'apanage des oiseaux, qu'il n'existait pas chez d'autres animaux. Et en fait, on l'a retrouvé chez Deinonychus, et on s'est rendu compte en fait que cet os apparaissait sans doute lié à une adaptation à la carnivorie et à l'utilisation des bras au moment de la chasse. Donc cet os-là apparaît bien avant, et ce n'est plus un caractère d'oiseau, mais un caractère de théropode. En plus de ces caractères anatomiques un petit peu particuliers, il y a tout un tas d'autres caractères qui ont été trouvés très récemment, qui sont peut-être plus intéressants dans le cadre de ce qu'on sait des dinosaures, parce qu'il nous renvoie pas simplement à de l'anatomie, à des simples caractères ostéologiques, mais il nous renvoie un petit peu à la biologie de ces animaux. Vous avez ici des photos assez rigolotes. Vous avez là une photo d'une vertèbre dorsale d'un animal qui s'appelle Rebbachisaurus, c'est un grand sauropode. Si vous regardez cette photo, bon, mis à part le fait que la vertèbre est gigantesque, vous allez vous rendre compte que notre Rebbachisaurus a, au niveau de la vertèbre, tout un tas de petites lames, de lamines et de trous. Vous voyez que les os sont creusés de tout un tas de cavités. C'est ce qu'on appelle de la pneumatisation. Cette pneumatisation, on la connaît très bien chez les grands dinosaures sauropodes, et on la connaît aussi très bien chez les carnivores. Vous en avez un exemple là-haut, avec deux vertèbres de théropodes, et vous voyez que le côté de la vertèbre, là, encore, est creusé de petites cavités. Vous allez voir aussi que chez ce même dinosaure carnivore qui s'appelle Aerostéon, on va avoir ces fameuses clavicules soudées, ces furcula, et au milieu, vous voyez, il y a un petit trou qu'on reconnaît, qu'on va retrouver chez les oiseaux, qui montre là aussi que le squelette de cet animal est creusé et pneumatisé. Alors, quelle est la signification de cette pneumatisation ? La pneumatisation, si on veut l'étudier, on est obligé de regarder chez des animaux actuels. Donc, on a à notre disposition les oiseaux. Donc, si vous prenez un poulet, que vous disséquez le poulet, vous allez vous rendre compte que toutes ces petites cavités qu'on va retrouver dans le squelette, en fait, sont remplies du vivant de l'animal par des espèces de sacs aériens, donc des petits tissus, des tissus remplis d'air. Ces sacs aériens sont situés de part et d'autre du poumon et vont en fait pouvoir se remplir ou se vider d'air à volonté. Alors, on s'est longtemps demandé à quoi ça servait. On a vite compris chez les oiseaux à quoi ça servait. Ça permet à l'animal d'échanger beaucoup plus vite, beaucoup plus d'oxygène au niveau des poumons par un système très particulier. Vous avez ici un schéma de la respiration avienne. Je vais vous demander de regarder le schéma numéro B. Vous avez en haut la trachée artère et vous allez avoir donc l'air qui arrive. L'air va arriver dans le grand réservoir jaune qui se trouve être les poumons et va aussi remplir tous les sacs de couleur, donc ces sacs aériens. On est au moment de l'inspiration. Maintenant, regardons ce qui se passe au moment de l'expiration. Au moment de l'expiration, une partie des sacs aériens va se vider. L'air au niveau des sacs aériens est vicié, c'est-à-dire que l'oxygène a été consommé. Au niveau des poumons, plutôt, est vicié. Par contre, l'air qui était dans les sacs aériens, lui, n'est pas vicié. Les sacs aériens n'ont pas consommé l'oxygène. Donc au moment où les sacs aériens se vident, on a de l'air encore oxygéné qui va repasser dans les poumons. C'est-à-dire que vous avez un flot, ce qu'on appelle un flot unidirectionnel d'oxygène au niveau des poumons des oiseaux. Donc ça, ça leur donne un avantage très important et surtout nécessaire au vol battu et au vol à très haute altitude. Et ça leur apporte un deuxième avantage qui est un allègement très important du squelette. Et en fait, cette pneumatisation, on ne sait pas si les dinosaures avaient une respiration unidirectionnelle. Et on ne le saura jamais. Par contre, on sait que la pneumatisation observée chez les dinosaures est sans doute liée à un allègement du squelette. Et chez des animaux de très grande taille, ça se comprend aisément. Poussons un petit peu plus loin. Il n'y a pas que les os qui nous donnent des renseignements. On a trouvé tout un tas d'autres preuves, dont certaines sont liées au comportement ou à la reproduction. Vous avez tous sans doute entendu parler de l'animal qui est représenté en haut avec un crâne très étrange qu'on appelle oviraptor. Oviraptor, ça veut dire voleur d'œufs. Pendant longtemps, on a pensé que cet animal volait les œufs des autres dinosaures parce que quand on l'a retrouvé avec des œufs de dinosaures à côté de lui. Donc on pensait qu'il les avait piqués pour les manger. Il y a quelques années, on a retrouvé on a trouvé un fossile complet. C'est celui que vous avez là. Donc vous avez quelque chose de très classique pour les paléontologues, un plâtre, du sédiment, un préparateur qui a fait son travail, et on voit donc un animal qui est coupé. On n'a pas la partie haute. Par contre, on a tous les membres postérieurs, et sous les membres postérieurs, on a des œufs. Et la position des membres par rapport aux œufs indique clairement que l'animal n'était pas en train de voler des œufs, mais simplement en train de les couver. Donc ça, ça a changé complètement la vision qu'on avait de Oviraptor. Et ce pauvre Oviraptor, en fait, s'occupait de ses œufs et dans une position de couver qui est à peu près équivalente à celle qu'on a chez les oiseaux actuels. Il y a autre chose intéressante sur ce plâtre, sur ce fossile. Si vous regardez les œufs, vous allez voir qu'ils font en fait, ils marchent deux par deux. Si vous regardez ces œufs, vous allez vous rendre compte que les deux œufs du bas, il y a deux œufs en haut, et à chaque fois les œufs fonctionnent deux par deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les œufs ont été pondus à chaque fois deux par deux. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On sait que chez certains animaux, il y a un double oviducte. Chez les oiseaux, il n'y a plus qu'un seul oviducte. En fait, il y a deux oviductes chez les oiseaux, mais un des oviductes est atrophié. Chez les dinosaures, il semblerait qu'on a encore deux oviductes fonctionnels. Par contre, à la différence des autres reptiles, qui ont même parfois un double oviducte, on sait que si vous regardez des tortues, si vous regardez des crocodiles, vous allez vous rendre compte que quand ces animaux pondent, ils pondent à la suite. Ils vont pondre un certain nombre d'œufs, ils vont les pondre dans un laps de temps relativement court, et tous à la suite. Et ils vont les pondre n'importe comment. Chez les dinosaures théropodes, vous allez vous rendre compte que on a deux œufs pondus, la femelle va se déplacer, elle va en pondre deux œufs, elle va se déplacer, elle va en pondre deux autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la ponte va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on a chez les crocodiles, chez les crocodiles ou les tortues actuelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose au niveau du comportement et au niveau de la ponte. C'est un caractère qui est partagé entre nos dinosaures et nos oiseaux. Autre chose, on a retrouvé donc aussi des petits dinosaures, des tout petits dinosaures. On en reparlera tout à l'heure avec les dinosaures à plumes, mais vous avez ici un petit dinosaure chinois qui s'appelle Mei. Mei, on l'a retrouvé comme ça là-haut. Vous voyez une position extraordinaire. L'animal, en fait, est sans doute mort alors qu'il dormait. Si vous regardez la position de cet animal, le dessinateur a redessiné cette position, on se rend compte que l'animal a la tête tournée un petit peu à la manière des canards ou des cygnes à l'heure actuelle. Et ça, c'est lié à la forme sigmoïde du cou qu'on ne retrouvera pas chez d'autres animaux. Donc on a aussi des comportements sans doute liés à la pose et à la façon dont les animaux se tiennent qui sont communs aux oiseaux mais qu'on retrouve déjà chez des dinosaures. Alors tout ce débat sur l'origine des oiseaux, on a vraiment accumulé des preuves. Vous avez vu un petit peu comportemental, on a eu tout un tas de preuves ostéologiques, mais le débat c'est pas terminé. Il y avait toujours quelqu'un, une dizaine de personnes qui se sont autoproclamés les bandits, pour bands ça veut dire birds are not dinosaurs, et donc les bandits ont refusé jusqu'à très récemment, je crois que les bandits il en reste un ou deux encore, ont refusé de reconnaître que les oiseaux descendaient des dinosaures malgré les preuves qui s'accumulaient et qui s'accumulaient. Le principal coup porté aux bandits, entre guillemets, ça a été la découverte en Chine des gisements de la province du Liaoning. Donc la province du Liaoning, elle est située au nord-est de Pékin. Et cette province, on trouve dans cette province des formations géologiques qui sont formées par des alternances de calcaire lacustre et de tuf. Et ces conditions très particulières de préservation ont permis la préservation exceptionnelle de tout un tas d'organismes. On a trouvé donc au Liaoning des insectes, donc vous avez là en haut un exemple de papillon. On a trouvé des vrais oiseaux. Vous avez ici un animal qui s'appelle Changsheng ornis, dont on peut très bien voir le squelette, mais aussi la trace des plumes autour du squelette. On a retrouvé des animaux, je vous parlais tout à l'heure des Omaya, donc qui est considéré comme l'un des plus vieux placentaires, avec non seulement le squelette de l'animal complet, mais aussi autour la trace du pelage. Donc on a possibilité d'accéder à des informations très rarement accessibles pour les paléontologues, puisqu'on a des parties, enfin oui, au moins les empreintes des parties molles qui sont conservées. Donc au Liaoning, pour travailler, c'est facile. Vous prenez des morceaux des blocs et vous les clivez. Vous les clivez, c'est des petites feuilles d'argile ou de tuf de quelques millimètres, et vous faites ça toute la journée. Il faut savoir que c'est plusieurs milliers de personnes qui font ça tous les jours en Chine. On a trouvé beaucoup de fossiles, mais aucune équipe internationale qui a été sur le terrain n'a jamais trouvé un fossile. C'est-à-dire que ce sont vraiment les villageois locaux qui trouvent les fossiles parce qu'ils en font des milliers, des milliers et des milliers. Donc c'est un gisement exceptionnel, mais les conditions de travail sont aussi exceptionnelles dans le Liaoning. Alors, en dehors de ces animaux, évidemment, la plus grosse découverte qui a été faite, c'est celle des dinosaures à plumes. Donc là, on remonte à 1996 avec cet animal qui a été baptisé Cynosauropteryx. Donc Cynosauropteryx, vous avez ici le fossile originel. Donc vous voyez, le crâne de l'animal est ici. On voit une espèce de tache noire au milieu du crâne qui correspond à son orbite. On voit ici les pattes postérieures, les pattes antérieures. On a ici la cage thoracique avec sans doute le contenu stomacal préservé, et vous avez la grande queue qui part au-dessus. Et si on regarde en détail le dos de cet animal et la queue, on va se rendre compte que, attaché au cou, au dos, on va avoir des petites structures intégumentaires, donc, qui correspondent, qui ont l'air de ressembler à des poils ou à des plumes. Donc quand l'animal a été décrit en 1996, il a été décrit comme le premier dinosaure à plumes. Et à partir de là, l'histoire s'est accélérée. Alors je reviendrai tout à l'heure sur l'histoire de mélanosomes. Pour l'instant, on va rester avec ces animaux-là. L'histoire s'est accélérée. Des dinosaures à plumes, on a trouvé des quantités astronomiques, j'ai envie de dire, puisqu'on a maintenant 27 espèces différentes de dinosaures à plumes. Je vous en illustre que quelques-unes. Vous avez ici un autre animal qui s'appelle Cynornithosaurus, qui est relativement proche du Deinonychus, là, donc du raptor dont je vous parlais tout à l'heure. Ces animaux, ces fossiles, il faut bien se rendre compte qu'ils ne mesurent qu'une dizaine de centimètres. Donc, on a affaire à des dinosaures qui ont une taille exceptionnellement petite. On est très loin de nos géants du Mésozoïque dont on parlait tout à l'heure. Ces animaux, ces Cynornithosaurus, on voit aussi très bien au niveau, là, essentiellement, des avant-bras, qu'on va avoir là aussi ces structures, ces espèces de petits filaments qui ressemblent à des plumes et à des poils. Toute la question à l'époque est de savoir justement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des plumes? Est-ce que c'est des poils? Est-ce que c'est autre chose? L'année suivante, donc là on doit être en 99 ou 2000, peut-être 2000, oui 2000, on va trouver cet animal qui s'appelle Codipteryx. Et Codipteryx, on retrouve chez cet animal des plumes qui ressemblent à des plumes de contour, une espèce de duvet, mais à l'inverse, on va voir au niveau de la queue et surtout au niveau des membres intérieurs, ce que vous avez représenté ici, des structures qui ne sont plus des simples filaments, mais déjà des plumes beaucoup plus complexes et élaborées. Ça va culminer avec sans doute cet animal-là, qui s'appelle Microraptor. Et donc Microraptor a été découvert, il a été pris d'abord pour un oiseau, et en fait une année plus tard ils l'ont étudié en entier, ils se sont rendu compte que c'était un dinosaure, et un dinosaure très particulier puisqu'il a non seulement des grandes plumes au niveau de ses membres antérieurs, mais vous allez trouver les mêmes au niveau des membres postérieurs, ce qui fait que cet animal, quand vous le reconstituez, vous allez obtenir un animal qui a quatre ailes. Cette structure de plumes, si on regarde les plumes en détail, on commence à avoir des plumes avec des barbes, avec des barbules, à avoir des plumes qui sont très complexes et plus simplement des filaments. Alors ce qui est très drôle, c'est que on a un confrère américain qui, quelques années auparavant, avait donné une hypothèse de ce que pourrait être l'évolution de la plume. Donc ce dessin est complètement théorique, il a été fait avant qu'on trouve les dinosaures chinois, mais il se trouve que c'est un dessin théorique qui s'est avéré par la suite, c'est-à-dire qu'on a bien le passage de simples petits filaments à des plumes pennées avec un rachis asymétrique comme on les voit chez les oiseaux actuels, et on a tout le passage qui va se faire de l'un à l'autre. Donc si on replace ces plumes dans un contexte évolutif, on va se rendre compte que on connaît donc des plumes maintenant chez tout un tas de dinosaures carnivores, que les dinosaures carnivores, et que ces plumes, en fait, sont apparues dès les tyrannosaures. On a retrouvé des tyrannosaures primitifs qui ont déjà ces structures, de simples petits filaments comme vous les avez là, et vont se complexifier au fur et à mesure de l'évolution pour atteindre leur apogée avec les oiseaux. Et les oiseaux ont une seule particularité au niveau des plumes, c'est que ce sont les seuls à disposer de plumes complètement asymétriques. Chez tous les autres dinosaures, on peut avoir des plumes avec un rachis central, barbe et barbule, mais ces plumes-là ne servent pas à voler. Ces plumes-là ne servent pas à voler, et ça veut bien dire que la plume est apparue chez les dinosaures, non pas avec une fonction de vol, mais elle est apparue pour autre chose. Alors on s'interroge encore là-dessus. À quoi sert une plume quand elle ne sert pas à voler? Vous avez plusieurs solutions. Les principales retenues, c'est d'abord la parade nuptiale. Si vous prenez les paons, si vous prenez... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre animaux? Vous pouvez prendre l'autruche. Si vous prenez une autruche mâle ou une autruche femelle, vous verrez qu'il y a une très grande différence au niveau des plumes et que cette différence est donc sans doute liée à un comportement sans doute social. À côté de ça, les plumes peuvent avoir aussi un rôle de camouflage et bien évidemment d'isolant thermique, puisque nous nous servons des plumes avec cette... quand vous avez des couettes, des doudounes, c'est vraiment ça... dont on va utiliser la plume. Alors, arrivé à ce niveau du débat, les partisans, les tenants d'une hypothèse non dinosaurienne, d'une origine non dinosaurienne des oiseaux, se sont trouvés quand même un petit peu embêtés, parce que là, on commençait à avoir tout un tas de fossiles montrant des plumes qu'on ne connaît que chez les oiseaux et les dinosaures. Pour, je vais dire, 99% de la communauté paléontologique, le débat était terminé. Alors il y a quand même certains collègues qui ont dit « Oui, mais vous vous trompez tous, parce que ce que vous voyez, ce ne sont pas des plumes. Ce que vous voyez, ce sont simplement des fibres de collagène qui n'ont rien à voir avec des plumes. » Alors on s'est retrouvé avec des collègues qui ont dit « Ok, on va jouer le jeu, on va rester dans une démarche scientifique. » Et donc, ils proposent une hypothèse, on va tester leur hypothèse et on va voir ce que ça donne. Alors ils ont pris un de ces dinosaures à plumes, Anchiornis que vous avez là. Donc là encore, un dinosaure... qui présente des membres antérieurs. Vous avez le membre antérieur ici, le crâne qui est là, l'avant du crâne, donc des plumes au niveau du membre antérieur, mais aussi des plumes au niveau du membre postérieur. Donc là encore, un animal qui a quatre ailes. Et ils ont été voir dans le détail ces structures que vous pouvez observer. Et en allant dans le détail, en regardant au microscope électronique à balayage, ils ont retrouvé au niveau de ces plumes ces images que vous voyez là, ces petits organites qu'on appelle des mélanosomes. Les mélanosomes, vous allez les retrouver au niveau des plumes, vous allez les retrouver au niveau en fait, de toutes les fanères, donc ça peut être aussi bien les poils que les cheveux. Et ces petits mélanosomes, ils sont là pour... ils jouent un rôle très important pour colorer en partie les fanères, donc plumes ou poils. Et ils ont pu démontrer que c'était des mélanosomes en les comparant à ce qu'on a chez des organismes actuels. Et chez les organismes actuels, les mélanosomes ne sont présents que sur les fanères et en aucun cas sur des restes, si vous voulez, de fibres de collagène ou des fibres musculaires. Donc on s'est retrouvé avec la certitude que ce qu'on observait là était bien des fanères, sans doute des plumes, et ça a été plus loin, puisque en étudiant après la quantité de ces mélanosomes, en regardant un petit peu comment ils se positionnaient au niveau entre les plumes des ailes et les plumes du crâne, on s'est rendu compte que la densité n'était pas la même. Et cette densité différente a fait dire aux personnes qui ont travaillé là-dessus que l'animal avait un pattern de couleur. Donc vous avez ici une reconstitution d'Anchiornis, et c'est la seule reconstitution qui a été réalisée on va dire, où pour la première fois, un paléontologue a pu donner son avis au paléo-illustrateur et lui dire, voilà, vous avez des bandes claires, vous avez des bandes foncées, vous avez des bandes rouges, et cela en utilisant simplement la quantité et la densité de mélanosomes. Donc tout ça pour en revenir, voilà, on est à la fin d'un débat actuellement. Ça fait, je crois, 2 ans et demi maintenant qu'il n'y a pas eu de papier sur l'origine dinosaurienne des oiseaux. Alors c'est un peu un exploit parce qu'on a été abreuvé de ces papiers dans Nature et Science pendant 10 ans. C'était un petit peu trop à la fin, parce qu'une découverte c'est bien, une deuxième c'est sympa. Bon, au bout d'un moment, les gens publiaient sans vraiment étudier les fossiles. Donc là, ça s'est un petit peu calmé. Il y a des très beaux spécimens qui sont en cours de description en Chine et qui vont faire l'objet de monographies. Donc on aura plus de détails, en particulier sur ces études sur les mélanosomes. Il y a aussi des gens qui travaillent sur les couleurs des dinosaures à plumes, qui eux n'étudient pas les mélanosomes, mais qui regardent un petit peu tout ce qui est répartition sur les fossiles d'ions métalliques, ions ferreux, ions manganèse, puisque apparemment ces ions seraient la trace de pigments. Et donc on a beaucoup de personnes, surtout des géochimistes enfin, qui sont en train de s'intéresser à cette question de la couleur des animaux. Alors, conclusion de tout ça, c'est simplement que on est arrivé maintenant en fin de cycle, un cycle qui nous dit que les dinosaures ne sont pas complètement éteints, que les oiseaux sont bien des dinosaures, et cette simple affirmation doit nous faire complètement changer d'idée par rapport aux dinosaures. Donc déjà, on arrive à un nouveau concept. Pourquoi parler de l'extinction des dinosaures puisqu'ils ne se sont pas éteints ? Autre question, en 2012, donc dans la nature actuelle, vous avez plus de dinosaures autour de vous que vous avez de mammifères. Alors maintenant, après, s'il y a des collègues ici qui sont spécialistes des petites bêtes, des entomologistes, de toute façon, tout ce qu'on peut raconter sur les vertébrés les fera bien rire. On sait très bien qu'en termes de biomasse et de biodiversité, les vertébrés sont beaucoup moins nombreux. Mais voilà, ça change quand même un petit peu tous les concepts, ça change un petit peu tout le regard qu'on a eu sur ces animaux. Et je pense qu'il faudra, dans les années à venir, on va avoir beaucoup, beaucoup de travaux qui vont sortir sur avec cette nouvelle perspective, et en partie beaucoup de travaux qui sont en cours d'étude sur les proportions au sein des écosystèmes entre mammifères et dinosaures. Actuellement, il y a une grosse étude qui est menée sur les mammifères du Liaoning, puisqu'on en a retrouvé énormément. Et il semblerait que pour la première fois, on va avoir sans doute des éléments pour avoir accès à la biodiversité mammalienne à l'époque des dinosaures. C'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qui est apparemment dans les tuyaux. Je suis désolé, je vais m'arrêter là parce que je vais quand même répondre à vos questions, évidemment, pendant le plus de temps possible, mais là, je suis vraiment en train de perdre ma voix. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.